Bonjour Kevin, comment allez-vous?
Salut François, ça va bien toi?
Ça va bien, on va se tutoyer, je pense bien, parce qu'on on se connaît de longue date et on n'est pas dans le même pool de hockey, mais tout juste.
Ouais.
Tu as, encore une fois, le plaisir et aussi la responsabilité d'être chef d'antenne cet été pour un autre cycle paralympique. Et les Paralympiques à Paris du 28 août au 8 septembre, ça va être les plus grands jeux de ce genre-là. On est dans une... Mais je pense, mettons, on est rendu à un autre niveau.
Oui, je pense que oui. Je pense que c'est en tout cas l'ambition que le comité organisateur a. Mais tu sais, c'est un petit peu le slogan qu'on entend aussi à chaque deux ans et à chaque quatre ans. On veut toujours faire mieux que les éditions précédentes. Mais ça reste que oui, les Jeux paralympiques, on perçoit, en tout cas, on remarque que ça sert souvent de vecteur en général pour un cadre qui est cross-sportif, là, c'est-à-dire pour l'inclusion sociale des personnes handicapées. Si on veut qu'il y ait un leg, moi, je repense toujours à l'exemple là, tu sais, de Londres en 2012, qui avait vraiment été un point marquant pour la mise en accessibilité du réseau de métro là-bas. Il y a certaines stations qui étaient vraiment compliquées à rendre accessibles, mais elles étaient près du village paralympique, donc on avait mis des gros sous.
Oui.
Des gros pounds, des gros...
Et Paris aussi a emboîté le pas cette année à ce sujet.
Oui, donc à Paris, c'est trop cher le métro, puis c'est comme trop compliqué. Donc il y a eu des investissements ailleurs, mais je pense qu'au départ, quand il avait mis la ville en candidature, en nomination, il avait un peu levé ça comme argument en disant que ça pourrait servir à ça. Mais très rapidement, ils se sont rendus compte que ce serait pas possible de rendre, par exemple, le métro de Paris qui est plus que 100 mètres accessible. Mais tu sais, je pense aussi, mettons, aux jeux de Pékin, les premiers en 2008, tu sais, ça a comme vraiment été... à ce moment-là, les athlètes handicapés, c'était pas légion là-bas. Puis là, aujourd'hui, aux Paralympiques, que ce soit l'hiver ou l'été, la Chine est excellente dans tous les sports, c'est même au para-hockey. Fait que c'est pour ça que ça sert un peu de tremplin. C'est pour ça que je dis que ça sert un peu de tremplin en général.
Oui, puis tout à fait. Ici, dans le cadre de l'émission, dans la revue de presse, chaque semaine, on voit l'avalanche de nouvelles provenant de France au sujet de l'accessibilité. En tout cas, si le métro n'est pas encore à niveau là-bas, il y a certainement beaucoup de... Dans le discours public, en tout cas, il y a certainement beaucoup plus de place faite aux personnes en situation de handicap et à l'accessibilité en général. Qui doit-on surveiller? Il y a 56 heures tout de même de programmation paralympique sur ICI Tout TV. C'est pas rien. Et est-ce qu'il y a des épreuves reines qu'il faut surveiller? Est-ce qu'il y a des dates qu'on doit mettre à notre agenda, des athlètes incontournables?
C'est quand même le fun parce que, tu sais, moi, je l'avais fait en 2021 à Tokyo puis j'étais descripteur pour l'athlétisme. Fait que je faisais la description piste de l'ose. Oui, je surveillais ce qui se passait ailleurs aussi, mais j'étais comme trop occupé avec la piste et la pelouse pour vraiment pouvoir voir ce qui se faisait ailleurs. Là, comme chef d'antenne, tu sais, avoir une vision plus globale de ce qui se fait partout, tu sais, dans l'eau, sur la piste, dans les terrains, dans les gymnases. Fait que la liste est longue. Moi, je sais que je vais surveiller, tu sais, tous les sports d'équipe, le goalball, le rugby en fauteuil roulant, le basket en fauteuil roulant. C'est aussi des sports où il y a des bonnes chances de médailles, tu sais.
Ben, le goalball, entre autres, le Canada est qualifié dans le goalball féminin.
Les femmes, effectivement. Au rugby, c'est un mix, donc c'est hommes et femmes, effectivement, là, même si c'est surtout des hommes. Et au basketball, c'est qualifié hommes et femmes. Donc, ça n'a pas été comme nécessairement facile pour se qualifier pour ces équipes-là dans la dernière année. Là, elles ont participé à des tournois de la dernière chance, mais elles ont bien fait dans les dernières compétitions. Et je pense que c'est comme trois équipes, et le goalball, certainement, le goalball féminin, qui peuvent aspirer à monter sur le podium. En individuel, il y a une trollée de noms. Moi, je pense à Priscilla Gagné. Elle a déjà dit que ce serait ses derniers jeux en para-judo. Elle a été médaillée d'argent à Tokyo. Je pense qu'elle a de très bonnes chances aussi d'être sur le podium, d'avoir une médaille. En athlétisme, on ne connaît pas encore exactement ce qui va se passer avec Brent Laqueta, qui avait remporté quatre médailles.
De la région de Montréal, ici, tout à fait, qui avait dominé.
Oui. À Dorval, il avait remporté quand même quatre médailles à Tokyo. Là, je ne sais pas exactement il en sera où là, son état de santé, si ça va lui permettre de participer aux Jeux, mais c'était son intention en tout cas. Sinon, il y a Anthony Bouchard qui vient du Saguenay, qui s'entraîne dans la région de Québec, qui fait de la course en fauteuil roulant, lui aussi. Il revient toujours d'une très bonne performance en Suisse et à Paris lors du circuit des Grands Prix. Il a amélioré son temps aux 400 mètres. Il a aussi été médaillé aux 100 mètres aux Jeux parapanaméricains à Santiago. Donc, lui aussi, il en est certainement un là, qui pouvait ramener une médaille dans ses bagages.
Mais je pense qu'il y a Aurélie Rivard là, qui va être à ses quatrièmes paralympiques.
Ben oui, comme elle est tellement, partie maintenant du décor.
Du décor, oui.
Exact. C'est une vétérane. Pas qu'on s'habitue à des grandes performances, mais tu sais, elle nous ramène des médailles à chaque fois qu'elle participe à des Jeux. Donc oui, puis on va la voir en individuel, mais ça va aussi être le fun de la voir dans des épreuves de relais. Oui. L'équipe de paranatation canadienne devrait être assez bonne aussi. Moi, je pense à sa grande amie, Tess Rutliff, que j'ai découvert cette année. On l'avait déjà vue, elle, au jeu de Rio. Elle avait eu une blessure juste avant les Jeux de Tokyo. Une blessure au dos qui l'avait empêché de participer, mais elle a vraiment, elle s'est remise sur pied. Et là, elle a remporté des médailles très récemment aux mondiaux de paranatation. Elle devrait faire équipe avec notamment Aurélie lors des relais. Ici, dans la piscine, il y a aussi l'écologie sur bide. Il y en a vraiment plusieurs. Là. C'est comme, souvent, c'est des Québécois aussi. Là, c'est ce qui a fait, je pense, que la
Oui, il y a une bonne délégation du Québec du côté de la natation, c'est juste.
Oui, depuis longtemps, là, tu sais, ça remonte à bien avant Benoît Huot, mais ça fait aussi partie des noms là, qui ont remis des médailles.
Je vais te poser une question d'un point de vue non pas de quelqu'un qui est familier avec les Paralympiques ou avec la communauté sportive handisport. C'est plutôt du point de vue du public dans un sens large. Les gens qui me parlent de Paralympiques, souvent, ils sont un petit peu déconcertés par le système de classification. Quand on voit que tel ou tel athlète est, mettons, S5 ou T32, là, on ne sait plus comment s'y retrouver. Est-ce qu'il y a une façon de comprendre ce système?
Oui, donc, c'est, mettons... c'est pour Christian, quand on parle de vélo, par exemple.
Oui.
Souvent, c'est un lien avec le niveau du handicap ou encore avec le véhicule qu'il utilise lors de la pratique de son sport.
D'accord.
Puis il y a un chiffre qui est accolé de 1 à 5 qui va faire référence à la sévérité du handicap.
D'accord.
Du fort au moins fort, du plus handicapé au moins handicapé. Mais c'est vrai que c'est pour ça que des fois, ça paraît un petit peu indigeste, les résultats, parce que là, c'est le meilleur de sa catégorie, mais il y a eu plein de médailles, c'est difficile de les comparer. C'est sûr qu'il y a un travail de pédagogie à faire en même temps, je pense, pour bien faire comprendre aux gens les résultats.
Oui, parce que le principe de toute cette classification-là, c'est évidemment que la médaille soit ou les médailles soient remises aux athlètes qui ont bien performé sur un terrain d'égal à égal le plus possible là, avec des personnes qui vivent la même situation qui ont les mêmes challenges parce que sinon ce serait un peu le fouillis. C'est sûr que ça fait qu'il y a comme plusieurs épreuves qui ont l'air d'avoir une sorte de déclinaison de 100 mètres, là. Mais au final, ce sont tous des athlètes. Et je pense que c'est une des conséquences à la longue de l'intégration des Paralympiques dans le paysage de la société. C'est qu'on parle d'athlètes ici. On n'est plus dans le phénomène de l'inspiration là, ou de la personne qui malgré tout, fait quelque chose. Là. On a dépassé ça depuis longtemps.
On est plus dans le sportif, effectivement. C'est comme le côté humain a beaucoup pris de la place. C'est correct, là. Mais maintenant, je pense qu'on est un peu plus dans les résultats athlétiques et sportifs.
Oui.
C'est comme Chantal Leclerc aussi l'a dénoté, comme elle, qui a vécu la transformation paralympique. Là. Fait que je pense qu'on peut beaucoup se baser aussi sur ce qu'elle nous dit, puis ça confirme un peu ça.
Est-ce qu'on peut se faire une idée de la place du Canada là, dans le classement des nations à la fin? Est-ce qu'on est en position pour être dans le top 10, le top 5?
Ouais, top 10, je pense que oui. Top 5, c'est pas ça. C'est toujours compliqué. En fait, je parlais tantôt de l'attention des Chinois. Il y a beaucoup de pays qui portaient peu d'attention par rapport il y a quelques années à peine, qui ont mis vraiment des gros sous, des gros investissements. Puis au Canada, le sport amateur en général, il y a beaucoup de réflexions à avoir sur le financement avec le programme À nous le podium. Tu sais. que c'est vraiment la bonne manière de d'encourager les résultats et les succès. Il y a comme des discours pour et contre là-dessus. Fait que, mais tu sais, je suis sûr qu'on va avoir plusieurs belles performances, plusieurs médailles, qu'on va sûrement avoir des surprises, puis des grands moments. Puis aussi, même s'il n'y a pas de médailles, il n'y a pas de résultats, souvent, c'est des athlètes qui reviennent, qui finissent 5e, 6e. Je disais, moi, il y a 3 ans, je pratiquais même pas ce sport-là.
Oui.
Puis là, je suis voyagé. J'ai eu une super expérience, j'ai rencontré du monde, ça devient une expérience de vie. Fait qu'il faut aussi le voir sous ce sens-là et pas juste sous le sens des médailles. Mais c'est vrai que les médailles, c'est le fun. D'autant plus qu'il va y avoir des primes, des bonus aux médailles.
Oui, enfin, exactement. Enfin, voilà. Voilà des médaillés qui sont des médaillés comme tous les médaillés. Hein, ça a été une étape importante qui a été franchie cet hiver au niveau du Sport Canada. Ben, bravo, Kevin. Il y a une cérémonie d'ouverture, je suppose, qui est comme elle doit être, c'est-à-dire spectaculaire.
Oui, tout à fait. Puis on sera là à la description. Il y a donc le mois. Je vais être co-chef d'antenne avec Geneviève Tardif à mes côtés. Puis on va avoir des gens sur le terrain aussi. Rosine Pillon, Benoît Huot, Jean Saint-Onge seront là. Donc, ça va être, je suis bien content. Les émissions seront à partir de 15h en direct tous les jours pendant les Jeux paralympiques. Ça va être super agréable de faire ça.
En direct à 15h, on commence le 28 août. Parfait. Puis on va s'en reparler au retour quand notre émission reprend le 9 septembre.
Avec plaisir.
Merci beaucoup, Kevin. Bon été.
Salut François, bonne émission. Bye bye.